Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Oser la jeunesse, c'est le titre d'un ouvrage du philosophe français Vincent Cespedes, mais oser la jeunesse, c'est aussi ce que nous allons vous proposer ce soir. Oser miser sur les jeunes, des jeunes qui ont des choses à dire et auxquels il faut donner des espaces pour s'exprimer et pour expérimenter. La jeunesse sera d'ailleurs au cœur de la laïcité en 2016 via We Need Youth, un événement organisé par le Centre d'Action Laïque qui aura lieu en mars et dont on aura l'occasion de parler dans cette émission. Quel rapport les jeunes ont-ils à la laïcité ? Être laïque signifie est-il pour eux automatiquement être engagés et quelles sont les actions dans lesquelles ils s'engagent? Pour en parler, nous ne pouvions évidemment inviter que des jeunes. Ils sont trois autour de la table ce soir. Alors tout d'abord, Arnaud Boine, vous avez 16 ans et vous faites partie de l'SBL Go Laïcité qui organise chaque année Laïcitat, donc des échanges de jeunes qui visent à faire vivre chez les jeunes les valeurs de la laïcité. À vos côtés, Alix de Gueldre, vous avez 24 ans et vous faites partie du collectif d'organisateurs de We Need Youth, donc ce grand événement autour de la jeunesse et de la laïcité. Et enfin, Galat Wilgeuz, vous avez 26 ans, vous êtes étudiant en sciences politiques à l'ULB, ancien vice-président du Cercle du Libre Examen, vous écrivez pour une série de revues en ligne dont, alors on va citer juste Ballast, comptoir.org, vous avez un blog aussi, Laïcar Belge, et donc voilà, toute une série d'autres activités dont on parlera plus tard.
Merci.
Bonsoir à tous et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Alors ma première question, elle s'adresse à chacun d'entre vous et elle est assez simple, en apparence en tout cas. Et c'est tout simplement, qu'est-ce que ça signifie pour vous être jeune et laïque en 2015? Qu'est-ce que ça implique? Alors Galat peut-être?
Alors être jeune et être laïque. Je vais peut-être déjà d'abord donner ma définition de la laïcité. Disons que, bon, en préambule, j'aimerais bien déjà dire que la laïcité, pour moi, a généralement été un peu trop associée à certaines choses, notamment l'idée d'une démocratie dite représentative, à une liberté vue de manière complètement privée et libérale. Et en fait, disons que moi, j'associe la laïcité à l'engagement tout simplement parce que pour moi, la laïcité, c'est la démocratie en fait. La laïcité vient du mot laos qui en grec ancien voulait dire peuple, pris de manière large, sans distinction de classe sociale. Et c'est donc en fait d'une certaine manière la conjugaison de la liberté et de l'égalité. Pour la laïcité, en fait, c'est voir que finalement l'homme est maître de son destin. Ce n'est pas un dieu ou des lois de l'économie ou de l'histoire qui régissent son destin, c'est bien lui. Et c'est lui qui est responsable de ce qu'il fait. Et c'est pour cela qu'en fait on sépare les églises de l'État. On sépare les églises de l'État non pas juste pour pouvoir boire du vin tranquillement ou manger de la viande le vendredi, mais aussi parce que ça nous permet à nous, en tant qu'hommes, de participer au façonnement de nos lois, au façonnement de nos institutions et à notre propre gouvernement. Et c'est pour cela que, pour moi, la laïcité ne peut pas être dissociée d'une vision de la démocratie radicale et réelle. Je ne pense pas que l'on puisse qualifier nos régimes de laïcs tant qu'ils se résument à des élections tous les X années pour des personnes qui vont exercer ensuite le pouvoir pour nous. Je pense qu'on ne peut être laïque que si l'on plaide pour une vision de la démocratie qui permette aux hommes justement de participer au façonnement de la loi, au gouvernement. Et je terminerai par cela. Disons que ça, je pense, démontre en fait d'une certaine manière l'aberration de la distinction qu'on fait en Belgique entre une laïcité dite philosophique et une laïcité dite politique. Parce que la laïcité, elle est deux. Elle est philosophique parce qu'il faut une disposition d'esprit particulière pour que les hommes puissent remettre en question leurs dogmes, les préjugés, les lieux communs, et qu'ils prennent donc en conscience que ce sont eux qui sont maîtres de ce qui leur arrive, et non pas des choses externes à eux-mêmes. Mais c'est aussi politique parce que, déjà premièrement, la liberté est avant tout politique, parce qu'il faut pouvoir justement participer à ce qui dirige notre vie pour pouvoir ensuite se qualifier de libre. Et c'est aussi parce que si, par exemple, l'État, ou en tout cas la puissance publique impose un dogme quelconque, eh bien on peut dire au revoir à la liberté de conscience. Donc pour moi, liberté, égalité, démocratie, pour moi, c'est justement, ça ne peut pas être dissocié de la laïcité et donc de l'engagement.
D'accord. Arnaud, est-ce que pour vous, effectivement, être laïque, ça veut dire aussi être engagé dans cette liberté notamment?
Oui, je pense vraiment que la laïcité, c'est un engagement et une façon de penser, j'ai envie de dire. Je me suis toujours dit que la laïcité, c'était une façon de penser où on était libre et où on n'avait aucune règle préétablie pour nous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça.
D'accord. Alix, un ajout effectivement sur votre vision à vous de la laïcité, d'être jeune et laïque en 2015, qu'est-ce que ça implique?
Alors pour moi, être jeune et laïque en 2015, comme vous dites, c'est surtout assumer de véhiculer certaines valeurs, d'essayer de véhiculer des valeurs qui sont peut-être de nos jours un peu moquées, des valeurs qui peuvent paraître un peu puritaines ou que sais-je, et essayer de les transmettre à son échelle, donc tout le monde ne peut pas s'impliquer dans la vie politique, même si je suis d'accord avec lui pour dire qu'il ne faut pas se séparer du politique, mais à n'importe quelle échelle, on peut être laïque et transmettre des valeurs ou essayer un minimum de s'engager et de changer, ne serait-ce qu'un tout petit bout de choses.
Et ces valeurs, c'est quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est ces valeurs que vous voulez transmettre, vous?
Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que je crois que ça fait beaucoup, mais je pense qu'il y a la solidarité, la tolérance, enfin principalement, la curiosité, voilà, le... Pour moi, c'est vraiment la solidarité, tolérance, curiosité. Si je devais en citer que trois pour pas commencer à élaborer une longue liste de valeurs.
Alors, je vous propose d'écouter tout de suite une interview que nous avons réalisée avec Vincent Cespedes. Alors, je le disais en introduction, donc il a écrit un livre qui s'appelle « Oser la jeunesse ». On l'a rencontré il y a quelques semaines à Namur et il nous parle des combats que les jeunes doivent mener, selon lui, par rapport à la laïcité. On l'écoute et vous réagirez juste après.
Le premier combat, c'est contre ce qu'ils appellent le laïcisme, c'est-à-dire l'attaque de la laïcité, ce qui serait une laïcité idéologisée. Bien sûr, des groupes d'extrême droite idéologisés. De la laïcité, mais c'est pas ça la laïcité, c'est pas du tout ça. La laïcité, c'est une ouverture totale à tout ce qu'on peut être, mais ça n'empêche pas que malgré nos différences, des choses fondamentales nous rassemblent, des lois, une politique, un pays, un destin. Et puis la deuxième attaque, évidemment, de la laïcité, c'est une propagande djihadiste, terroriste, qui instrumentalise la laïcité et qui en fait finalement une sorte de diable anti-musulman. C'est évidemment pas ça, je dirais même c'est tout le contraire. La laïcité, c'est la possibilité, quelles que soient mes convictions, de pouvoir dialoguer avec toi dans ton humanité. Hein, si on ne met pas la laïcité, le dialogue humain se termine en argument ad hominem ou ad personam, c'est-à-dire en fonction de tes convictions, je vais te juger avec mes préjugés. Donc voilà. Et puis la laïcité, c'est aussi apprendre qu'il n'y a pas de combat de personne, il y a des combats d'idées. Et on peut tous porter des idées, quels que soient nos signes extérieurs d'appartenance fantasmés. On attaque des idées, on n'attaque pas des hommes, on n'attaque pas des femmes, on attaque des idées. Le vrai combat de demain pour les jeunes, c'est le combat philosophique, le terrain des idées et de l'expérimentation. Et nous, les plus de 30 ans, on doit leur laisser les moyens de faire ce combat et on doit les admirer et on doit prendre tout ce qu'ils vont nous donner. Ils travaillent pour nous, si on ose la jeunesse.
Galad, ici Vincent Cespedes parlait du laïcisme. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de s'affirmer comme laïque quand l'extrême droite en France, par exemple, galvaude un peu ce terme de laïcité?
Mais je pense qu'en effet, la laïcité aujourd'hui est prise d'une certaine manière entre deux étaux. Entre en effet, d'une part, l'extrême droite qui instrumentalise la laïcité à des fins en fait xénophobes voire racistes. C'est typiquement des groupuscules comme Riposte Laïque ou un parti comme le Front National qui s'autoproclament laïque alors qu'en fait ils ont surtout un problème avec les musulmans. Ça on le sait très bien. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un autre adversaire de la laïcité qui est peut-être plus difficile en fait à viser, notamment quand on est de gauche, comme je le suis, en tout cas quand on est socialiste et qu'on veut une forme de changement de société, c'est les prétendus laïcs qui utilisent aussi la laïcité mais en disant en la vidant sa substance en fait. Par exemple, quand j'entends le mot laïcisme, j'ai mes poils qui s'hérissent. C'est-à-dire que le laïcisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la laïcité poussée jusqu'à son bout est finalement une forme d'intégrisme comme les autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là, justement, parce que pour moi, la laïcité, si elle est radicale, elle est justement ce qu'elle est, c'est-à-dire une vision de la société démocratique, une séparation radicale entre l'État et les églises. Et moi, quand j'entends ça, souvent, ça vient de la bouche en fait, de personnes qui vont vous dire que, par exemple, il faut accepter les signes religieux à l'école, il faut accepter des accommodements raisonnables, etc. Ces mêmes personnes-là vont d'ailleurs justement désigner des personnes comme moi qui plaidons pour une laïcité vraiment radicale. Ils nous traiteront de laïcars. C'est pour ça d'ailleurs que mon blog, à la base, s'appelait Laïcars. C'était un peu une pirouette et un sarcasme contre les personnes qui traitent tous les laïcs cohérent de laïcard. Bon, pour moi, la laïcité, ce n'est ni l'islamophobie, ni une stigmatisation, ni même l'athéisme, mais ce n'est pas non plus cette espèce de vision un peu anglo-saxonne qui consiste à laisser les religions prendre parti et être reconnues par la sphère publique.
Alors, dans son interview, Vincent Cespedes parlait aussi du fait que la laïcité, ça devait être un combat d'idées, pas un combat de personnes. Est-ce que via laïcité, Arnaud, vous apprenez justement à rencontrer les autres et apprendre à philosopher avec les autres et à combattre, on va dire, au niveau des idées et pas des personnes?
Oui, bien sûr. Mais je trouve que le mot combattre est un peu extrême, parce que combattre une idée, j'ai pas vraiment ressenti que c'était ça qu'on essayait de nous apprendre à l'Estade, mais c'était plutôt comparer des idées et voir ce que ça donnait en avançant chacun dans notre sens. Pas nécessairement de les opposer une à l'autre, plutôt de voir les différences qu'il y a ou les points communs.
Ah, d'ailleurs, Galette voulait rajouter quelque chose.
Alors, c'est plutôt de poser une question. C'est en fait, quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que pour toi, certaines idées ne méritent pas d'être combattues ou certaines idées ne méritent pas d'avoir un combat justement pour les mettre en valeur ?
Non, non, bien sûr, elles méritent toutes d'être combattues, mais peut-être pas nécessairement toutes de la même façon. Certaines pourraient plus être, enfin, pouvoir accepter un dialogue qu'avec d'autres, là, il faudrait plutôt combattre front à front, quoi.
Et via quel type d'activité ? Est-ce qu'à Laïcitate, par exemple, vous apprenez à dialoguer, alors peut-être plus que combattre ?
Surtout par des ateliers philosophiques, où entre nous, on a un thème qui est préétabli, et où on discute avec des philosophes, et où justement, ils nous mènent sur un chemin, ou même parfois, ils nous laissent aller un peu sur le nôtre, et voir un peu où est-ce qu'on en arrive. En partant d'un thème de base, on arrive à partir un peu partout, j'ai envie de dire. Et à Laïcitate, on nous apprend à faire ça, à débattre et on nous laisse libres de débattre, quoi.
D'accord. Et donc, c'est des rencontres qui ont lieu à différents endroits. Donc, vous organisez... Alors, je sais que vous n'aimez même pas le terme camp ou colonie de vacances, mais c'est un peu cette idée quand même de rencontre entre plusieurs jeunes de plusieurs pays à un endroit particulier, une fois par an.
Oui, voilà. C'est surtout un échange entre les jeunes et un échange d'idées entre les jeunes. Donc, on se rencontre et on échange nos façons de penser, nos idées. Et par les ateliers philo, on apprend à discuter ensemble de ça.
Et ces jeunes, ils sont tous, ils se disent tous laïcs ou justement il y a des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement dans le même point de vue, même idée que vous ?
Bah, la plupart le sont, mais tout le monde n'a pas exactement la même idée d'être laïque. Donc oui, tout le monde n'a pas la même vision à Laïcitate, mais en gros, j'ai envie de dire, c'est la même vision, pardon.
Je vous propose de réécouter un nouvel extrait d'interview de Vincent Cespedes où il nous parle du rôle de l'école dans cette formation à la libre pensée, à la libre expression, à l'esprit critique. Et donc, il nous parle d'abord du problème de l'école et de qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour résoudre le problème.
Elle a l'impression qu'elle réussit sa vie à l'école et donc elle peut se planter dans sa vie à l'école et que les diplômes ont une sorte d'importance écrasante sur leur avenir. Et donc il y a une stress, une crispation sur l'école qui n'est plus du tout un lieu d'être passionné et d'apprendre la connaissance avec gourmandise, mais qui est un lieu où on joue sa vie déjà. Donc l'angoisse, il y a même des pathologies scolaires maintenant qui arrivent. Je ne parle même pas du harcèlement de certains, mais il y a une véritable angoisse de se dire « je joue ma vie à l'école ». Et ça, c'est évidemment peu propice au plaisir d'apprendre, au plaisir d'échanger, au plaisir de faire des exercices de démocratie à l'école. Et la seule possibilité de s'en sortir, c'est de rendre les jeunes philosophes le plus vite possible. Il ne s'agit pas d'apprendre la philosophie et ensuite de dire tu peux être philosophe, c'est-à-dire après un bac plus 5. Il s'agit de rendre toutes les matières à l'école philosophiques, c'est-à-dire autocritiques, capables de critiquer leurs fondements, capables d'élaborer la connaissance. La connaissance doit pouvoir se coélaborer, c'est comme Wikipédia, ça se coélabore. C'est plus... c'est plus archivé et tu dois ouvrir ton cerveau et on va te le remplir. C'est le gavage des oies qui était dénoncé dans les années 70. Hein. L'acte éducatif, ce serait comme gaver des oies. Ben, on en est encore un peu à ce modèle-là parce que la passion n'est pas encore au centre du système éducatif. Donc on est encore dans un truc de bachotage et donc de surmenage et donc de perte de sens dans l'acte d'apprendre.
Alors Galette, je le rappelle, vous faites partie du cercle du libre examen à l'ULB. Ici, Vincent Cespedes disait que finalement à l'école, on n'apprenait pas assez le libre examen, l'acte de philosopher, de parler, de dialoguer aussi avec les autres. Est-ce que ce libre examen, on devrait l'apprendre pour vous, le pratiquer plus tôt à l'école et pas seulement à l'université où finalement on a l'impression qu'on découvre des choses ?
Totalement. Disons que le libre examen est quelque chose qui doit s'apprendre du berceau jusqu'à la mort, en fait, d'une certaine manière. À l'école, en effet, contrairement par exemple à la France, nous n'avons pas vraiment de cours de philosophie. Je pense que c'est déjà quelque chose qui mériterait réflexion. On apprend d'une certaine manière le libre examen qui est infusé au travers de certains cours, cours d'histoire, cours de français, cours de sciences, etc. Mais c'est clair que je pense que ce n'est pas, en tout cas, un socle qui est vraiment mis en avant dans le système éducatif de manière générale. Je pense que pour l'école, j'aimerais bien dire juste une chose. Je pense que l'école, doit apprendre l'esprit critique, ça c'est clair. Maintenant, on peut pas non plus lui demander de tout faire pour la société. Et justement, libre examen, ça doit être aussi d'une certaine manière véhiculé par la société. Quand par exemple, on voit qu'il y a des émissions qui décérèbrent totalement les jeunes comme les adultes, quand on voit qu'il y a une espèce de divertissement de masse qui finalement crétinise d'une certaine manière les gens à leur insu, il y a déjà aussi un problème au niveau du libre examen. Je pense aussi que le libre examen peut être véhiculé de manière autonome par des collectifs, des associations. Libre examen au cercle du Librex par exemple, nous sommes une ASBL aussi d'éducation permanente. Ce qu'on fait, ce n'est pas juste pour l'université, c'est pour aussi l'extérieur de l'université. Et je terminerai aussi sur la question de l'école. Je pense qu'en fait, comment dire, à l'école, disons qu'elle a une place fondamentale parce que c'est celle qui permet justement aux élèves de développer un esprit critique et donc d'une certaine manière de valoriser la liberté et l'égalité, encore une fois. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre si on n'a pas justement la capacité de se remettre en question et de mettre en question les préjugés, les lieux communs, les dogmes, les institutions de sa propre société. Et on n'est pas égaux si justement l'enseignement n'est pas dispensé à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que moi personnellement je milite pour la gratuité totale de toutes les formes d'enseignement. Et donc pour finir, je dirais sur la question de l'esprit critique et du libre examen, et ça c'est ma vision toute personnelle, elle n'implique pas le cercle du libre examen, je pense qu'elle ne peut pas pour le coup se résumer à juste le développement de l'esprit critique. Je pense que c'est un premier pas qui peut ensuite mener à d'autres pas, et pour moi un pas extrêmement important qui est celui de l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement si ce n'est justement le fait de vouloir reprendre possession de la sphère publique, de la politique, pour qu'elle soit justement le fait des citoyens et non pas des experts, des clercs, des économistes, des intellectuels, tout ça et tout ça. Pour moi justement, esprit critique et politique, prise au sens large et au sens noble du terme, vont de pair.
Alix, justement, est-ce que We Need You, ce sera l'occasion de donner aux jeunes, donc l'occasion de leur donner la parole et l'occasion de pratiquer ce libre examen?
Alors on a décidé de nommer notre événement We Need You, le printemps des consciences, je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. On a envie de réveiller un petit peu, mes chers collègues de notre belle génération Y. On a envie de susciter un peu de questionnement, un peu de remise en question, et puis de leur proposer, oui, effectivement, différents ateliers. Donc on aura des ateliers radio, des ateliers web débat, des rencontres avec des philosophes comme ils le font à Laïcited pour discuter, mais mettre vraiment le jeune au centre de la discussion. Donc il est hors de question que ce soit le philosophe qui anime tout le débat et que le jeune penaud, une fois de temps en temps, réponde. Donc là, on veut vraiment montrer que oui, j'ai 24 ans, oui, on peut avoir 16 ans comme Arnaud, mais c'est pas pour autant qu'on a besoin d'adultes ou de profs ou d'écoles pour nous dicter ce qu'on doit dire ou penser. Donc We Need You, c'est l'occasion pour les jeunes de mon âge, les plus vieux ou les plus âgés, de démentir un peu tous les préjugés, les vilains préjugés qu'on a sur notre belle jeunesse.
On va continuer à parler de We Need You, mais je vous propose juste à présent de faire une petite pause musicale avec un des groupes qui sera présent lors de l'événement We Need You, donc qui sera présent le samedi soir. Et ce groupe, c'est La Shiva Gantiva qu'on écoute ici avec Après Tao.
Del pelado.
toujours dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Vous venez d'écouter Après Tao de la Shiva Gontiva, donc un groupe belgo-colombien que vous aurez l'occasion de voir lors de l'événement We Need Youth, donc qui aura lieu en mars à Bruxelles. Alors Alix, on en parlait, ce sera l'occasion de donner la parole aux jeunes, de donner vraiment l'occasion pour eux de pratiquer le libre examen. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs le printemps des consciences. Quel type d'atelier est-ce qu'il y aura? On a déjà parlé d'atelier philo. Je sais qu'il y a un serious game aussi, par exemple, qui sera organisé. En quoi ça consiste?
Alors, on est en train de décrire pour l'instant le scénario du serious game. Donc, ça va être un jeu de rôle grandeur nature en live sur le campus du Solbosch, pardon, qui consistera. Donc, on sera mis face à des choix de reconstruction d'une société qui aura été détruite par des raisons que vous découvrirez, je ne vais pas tout spoiler. Et donc le joueur devra faire des choix moraux, des choix en tant que citoyen dans cette nouvelle démocratie qu'on devra reconstruire, ce sera le principe, en se baladant à travers le Solbosch. Il y aura des scénettes, il y aura des acteurs, et en résolvant ses choix, il sera amené à aller à tel ou tel endroit. Ça, ce sera un des ateliers ludiques, en tout cas, de l'événement.
Alors, Arnaud, on l'a dit, enfin, vous êtes le plus jeune autour de la table, vous avez 16 ans. Est-ce que vous estimez que il manque d'espace aujourd'hui, d'espace de parole, d'espace pour exprimer des choses, pour expérimenter des choses quand on est jeune?
Oui, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque et qu'il n'y a pas assez d'espace où on peut s'exprimer et faire ce qu'on a fait à la Citade, par exemple. Il n'y a pas assez d'espace où on peut dialoguer comme ça, philosopher.
Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de faire ça? Qu'est-ce que ça vous apporte pour l'avenir?
Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que à mon âge, je suis assez jeune et je peux avoir des idées qui sont peut-être pas très nettes. Et justement, en discutant avec des personnes, en comparant mes idées avec celles des autres, je peux peut-être me créer mes propres idées et que justement, ça devienne plus net pour moi, ce que je pense.
Alors, l'événement We Need Youth, il s'adresse à quelle tranche d'âge particulièrement? Est-ce que des jeunes, par exemple, déjà comme Arnaud, à 16 ans, pourront trouver des activités qui les interpelleront?
Je pense que oui, tout à fait. Même des jeunes de 13, des jeunes de 14 ans, tout dépend. Des jeunes de 45 ans, peut-être.
On est jeunes dans l'esprit.
Voilà, c'est ça. Donc, après, le We Need Youth, on part de la jeunesse. Certes, on ne vise pas un public moyen de 60-70 ans, mais tout le monde est le bienvenu et je pense que n'importe qui, et même Arnaud qui a l'air pour ses 16 ans d'avoir déjà la tête bien vissée sur les épaules, devrait trouver son compte. Il y aura de tout, hein. Il y aura de la musique, il y aura des cafés philo, il y aura du jeu, il y aura des potagers solidaires, il y aura du spectacle, il y aura du théâtre aussi. Donc vraiment n'importe qui peut y trouver son compte. Et si je peux revenir juste sur quelque chose, c'est que Arnaud, donc, il a participé à des échanges de jeunes. J'ai également eu la chance de participer à ces échanges de jeunes qui sont sponsorisé par Erasmus+, et je voudrais juste lancer un message. C'est très peu connu, ces échanges de jeunes, alors que c'est vraiment incroyable. L'Europe a des moyens énormes pour organiser ça. Très peu de gens sont au courant, très peu de jeunes sont au courant, alors que n'importe qui peut, s'il a envie, organiser un échange de jeunes dans son pays et à l'étranger. Donc j'invite les gens à se renseigner sur les échanges de jeunes, parce que c'est vraiment top.
Galat, les espaces de parole dont on parle et dont on dit que ça manque encore aujourd'hui, quand on est un peu plus âgé, on va dire, puisque bon, vous avez 26 ans, mais on va dire que vous êtes le plus âgé autour de la table, est-ce que par après, on est obligé de s'engager en politique si on veut continuer à exprimer cet engagement?
Disons que j'aimerais bien dire deux choses alors pour vous répondre. Premièrement, s'engager en politique, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, s'engager en politique, ça ne veut pas dire forcément s'encarter dans un parti. Bien au contraire, personnellement, je critique la particratie, justement parce que c'est finalement la séparation de la politique des gens normaux, des gens du commun. S'engager en politique, pour moi, ça peut se faire très bien aussi au travers d'une association, au travers d'une forme de militantisme alternatif. Moi, quand je vois par exemple des amis qui décident de rénover certaines formes de quartier en instaurant par exemple un jardin, un potager collectif ou des choses comme ça, pour moi c'est déjà un acte politique, même radical. Maintenant, pour les lieux de parole, c'est vrai que quand on sort de l'université, je pense que c'est de plus en plus difficile de trouver des endroits où débattre ou philosopher. Déjà, tout simplement parce qu'ils disparaissent. Typiquement, les endroits où les gens avant allaient pour se réunir et parler, les ouvriers, les travailleurs de manière générale, c'était des bars, c'était des maisons du peuple, etc. Tout ça est en train de littéralement disparaître au profit de supermarchés, de grandes structures qui sont possédées par des personnes qui ont beaucoup de capital, etc. Il y a aussi une difficulté parce que tout simplement quand on travaille, on n'a peut-être plus forcément la motivation de débattre, la motivation de remettre les choses en question, la motivation de discuter, toutes ces choses-là. On est tout simplement pressurisé par l'intensité du travail moderne. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas séparer la laïcité, l'esprit critique, de toutes ces contingences matérielles. C'est une vision finalement très bourgeoise en fait de dire que est laïque seulement la personne qui a une espèce d'esprit un peu qui voltige comme ça dans les airs, alors qu'on sait très bien que si on n'a pas ce qu'il faut à manger, on ne peut pas vraiment réfléchir. Et si on n'a pas le temps de réfléchir, on ne peut pas non plus réfléchir correctement. Donc en effet, quand on sort de l'université, c'est un peu plus difficile que quand on est dans l'université où justement on a toutes les choses. Le temps, aussi la disposition d'esprit, tout pour justement favoriser l'esprit critique. Je pense que c'est quelque chose aussi à justement à questionner, en tout cas quand on sort de l'université.
Oui, et Arnaud, par exemple, vous n'êtes pas encore à l'université, et du coup, là aussi, peut-être difficile de trouver un espace et difficile de convaincre peut-être d'autres jeunes de votre école à lancer des ateliers philo, à s'investir dans des échanges de jeunes. Est-ce que c'est des messages qui ont l'air de toucher vos camarades de classe, on va dire?
Ben personnellement, dans mon entourage, j'essaye de convaincre des amis à moi sur des débats comme ça, mais c'est pas toujours quelque chose qui les intéresse. Et souvent, c'est pas formé en avant. Même à l'école, on met pas beaucoup en avant ça. J'ai jamais entendu parler de débats philosophiques dans mon école. Même au cours de morale, mon professeur ne m'a jamais parlé de débats philosophiques ou quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui manque, je trouve.
Est-ce que tu constates parmi les jeunes de ta génération un désintérêt finalement pour le débat?
Ben, franchement, c'est pas en général. Il y en a certains comme moi qui s'intéressent vraiment à ça, mais sinon ça intéresse pas grand monde. Oui, c'est difficile d'intéresser les jeunes, surtout que on n'en parle pas beaucoup. Donc eux, ils ne savent presque pas que c'est là. Et d'un côté, je les comprends, s'ils savent pas que ça existe, ils sauraient pas s'y intéresser.
Alix,
je suis contente de t'entendre ça parce que c'est l'occasion pour moi de dire qu'en organisant notre événement, donc Win Idios, on veut sortir de cette idée du débat ennuyeux dans une salle sombre où la moitié des gens s'endorment, voilà. Et donc on veut créer des débats qui bougent, où les gens qui réveillent, où il se passe quelque chose. Donc on va essayer d'être dans le débat interactif, de jouer un peu avec la technique, etc. pour rendre le débat un peu plus sexy, je vais utiliser le mot, auprès des jeunes, parce que il faut faire face, comme tu disais, à des émissions. Bon, je dois l'avouer, je les regarde aussi. Mais j'essaie de garder mon esprit critique à côté. On va essayer d'organiser des débats et des rencontres qui bougent, qui sont dans l'esprit d'aujourd'hui et qui sont pas au fond des salles sombres et ennuyantes.
Alors, on arrive déjà au terme de notre émission, mais du coup, je voudrais juste vous laisser peut-être 10 secondes à chacun pour donner une ou deux informations pratiques. Alors, d'abord, Win Idios, c'est quand? Où est-ce qu'on peut trouver des infos?
Alors, Win Idios, c'est en mars, le 18 et le 19 mars 2016, sur le campus du Solbosch à l'ULB, la page Facebook Win Idios 2016. Vous pouvez trouver toutes les infos nécessaires sur cette page Facebook.
Alors, Arnaud, quelques juste informations pratiques sur laïcité, si ça nous intéresse en tant que jeunes.
Sur la Laïcitat, ça se déroule pendant le mois de juillet. Ça dure 2 semaines. Et pour beaucoup d'informations, c'est sur laïcitat.eu. Et là, toutes les infos pour la durée du voyage et ce qu'on va y faire, c'est sur le site.
Et Galate, quelques informations sur votre actualité et où on peut trouver vos écrits.
Alors, déjà, je vais faire vite la promotion de mon cercle, évidemment. Nous n'avons pas encore fait d'agenda pour le prochain gros trimestre, mais je vous invite tous déjà à aller sur le site de notre association qui est www.librex.be. On a aussi une page Facebook, évidemment, je vous invite à liker. Et sinon, pour mes écrits, y a déjà mon blog que vous avez cité tout à l'heure. Il y a l'une des revues à laquelle je participe qui s'appelle Le Comptoir et qui se trouve à comptoir.org. Et enfin, il y a la revue Ballast qui est notamment publiée par les éditions Aden et que l'on peut trouver généralement dans la plupart des librairies.
Voilà, mais merci en tous les cas à tous les trois d'avoir participé à notre émission. Galette, oui, juste une chose.
Peut-être un petit mot de conclusion. Je ne sais pas si je peux encore.
Très rapidement.
Très rapidement. Écoutez, j'ai juste envie de dire que la laïcité, je pense, ne peut pas être déconnectée de la solidarité. Et je pense aussi que la jeunesse, c'est génial. Mais il ne faut pas non plus, d'une certaine manière, homogénéiser la jeunesse et oublier que dedans aussi, il y a des inégalités sociales et éducatives. Voilà.
Tout à fait. Ce sera effectivement, c'est des thématiques sur lesquelles d'ailleurs on revient très régulièrement dans notre émission. Donc merci à tous les trois d'avoir participé à notre émission. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et toute l'équipe de Libre Ensemble vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et déjà une très bonne année 2016. Belle soirée à tous.